commençons cette table ronde plutôt longue avec un peu de retard du fait des difficultés d'accès à ce fameux réseau Internet pour vous présenter dans quelques instants un contenu qui est en ligne et qui n'existe qu'en ligne. Donc il fallait vraiment que nous arrivions à nous connecter. Alors nous avons devant nous, en dépit de ce léger décalage, une heure et quart, pour faire le tour de la recherche en train de se faire, de l'actualité de la recherche en histoire de l'énergie, histoire contemporaine de l'énergie, avec trois docteurs et un doctorant, que je remercie vraiment d'être parmi nous, et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à organiser une telle table ronde pour mettre en avant et faire connaître les travaux les plus récents. Merci par ailleurs de m'avoir confié l'animation. Alors, chacun va vous présenter à tour de rôle son projet brièvement, 3 minutes, et Inès m'a confié son sablier qui lui sert plutôt le matin et le soir pour se laver les dents. Mais 3 minutes, c'est la même durée, bravo Inès. Donc nous entendrons ce que sont les interrogations et les résultats d'aujourd'hui dans l'histoire de l'énergie, et à la suite de quoi nous pourrons discuter ensemble avec vous des moyens de faire cette histoire, à la fois les outils, les sources, les relations avec les collectivités territoriales, les entreprises qui sont si importantes aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, et enfin, nous pourrons aussi discuter des relations avec les autres disciplines. Et parmi nous, il y a un doctorant, même deux docteurs plutôt, qui sont très à l'aise sur ces sujets, qui ont travaillé en interdisciplinarité. Alors, auparavant, je vais moi-même me présenter et vous faire part d'une naissance. Je suis Léonard Lavorie, comme c'était affiché tout à l'heure sur le programme, mais chargé de recherche au CNRS, dans un laboratoire parisien. J'ai des origines bordelaises, j'ai étudié ici avec grand bonheur à Paris, mais ça n'est pas très important. Ce qui vaut ma présence, c'est plutôt d'être rédacteur en chef de la revue d'histoire de l'énergie. Et la naissance dont je dois vous faire part, c'est précisément la naissance de cette revue, qui est en ligne depuis décembre 2018. Donc, notre bébé, qui est déjà bilingue, et puis qui passe son temps sur Internet, c'est les signes des temps, se porte assez bien. Il va entrer dans son troisième numéro, bientôt, d'ici la fin de l'année. Alors, si je continue à jouer avec cette idée de faire part de naissance et de bébé, on pourrait dire que la maman, elle aussi, se porte bien. C'est la Fondation EDF qui a ombiliqué le projet avec son mécénat d'entreprise. Et le papa est très actif. C'est lui qui élève la revue. Le papa, c'est le comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie. Alors, dans cette métaphore, le père pourrait être la mère, peu importe, mais je ne vais pas m'aventurer plus loin et revenir à une présentation un peu plus classique, académique de notre objet. Alors, qu'avons-nous affiché à l'écran ? Eh bien, nous avons une publication, attention, il va y avoir beaucoup de hic, une publication périodique, électronique, académique, en accès ouvert intégral. Je décode. Bon, publication périodique, cela veut dire que nous publions 2 numéros par an. Enfin, ça pourrait être plus, mais il y a une périodicité. Hein. Chaque année, 2 numéros, c'est le rythme que nous pouvons avoir. Numérique ou électronique, cela veut dire que nous sommes en ligne exclusivement. Il n'y a pas de version papier dans cette revue. En fait, les frais de production avec une version papier sont remplacés par des frais de traduction, je vais y revenir, du français vers l'anglais. Revue académique, cela veut dire que nous avons une certaine exigence sur la forme, le fond, Ce sont des articles qui sont assez longs à lire, hein. Il faut prendre quelques heures pour entrer dans cette matière à chaque fois. Donc il y a un coup d'entrée, il y a un peu de jargon, même si on essaye de le limiter. Il y a tout un processus de traitement des articles qui s'appelle la relecture par les pairs, hein, le peer review, en double aveugle, je passe les détails. Alors, ce contenu, la revue, elle est en accès ouvert intégral. Cela veut dire que les contenus sont tous librement accessibles, sans nécessité d'abonnement, sous une licence Creative Commons. Alors, une précision, dans l'univers de l'open access, de l'accès ouvert, il y a plusieurs formules. Nous avons choisi la formule qui ne fait supporter aucun des coûts aux auteurs. Les auteurs publient eux-mêmes gratuitement, alors qu'il y a des formules par lesquelles les auteurs paient pour que leur contenu soit ouvertement accessible à tous. Alors, nous pouvons faire cela grâce, je l'ai dit, à du mécénat d'entreprise, celui de la Fondation EDF, qui depuis 2003 soutient tout un ensemble d'activités sur l'histoire de l'énergie. Ces activités, elles sont mise en œuvre par un comité. Le comité d'histoire, c'est le papa dont je parlais tout à l'heure, le comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie. Parmi ces multiples activités, comme la délivrance d'aide à la recherche, comme le soutien à des publications de livres, l'organisation de colloques, etc., parmi ces activités, le comité soutient et porte cette revue. Le président du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, qui Alain Beltran, directeur de recherche au CNRS, est l'éditeur en chef, c'est le boss de la revue. Alors l'ambition de la revue maintenant, c'est d'être la revue internationale où se rencontrent celles et ceux qui veulent réfléchir à la place de l'énergie dans l'histoire et à la place de l'histoire dans les politiques actuelles et les stratégies d'entreprise, pourquoi pas, liées à l'énergie. Cela veut être ce point de rencontre international, j'y insiste. L'horizon est d'emblée celui du monde, hein, et tous nos collègues à travers la planète peuvent contribuer. Notre comité scientifique est très international. Bon, il se trouve par ailleurs, nous sommes la première revue à occuper ce champ dans la planète, en tout cas francophone, anglophone, lusophone, hispanophone, pas vérifié du côté de germanophone. Donc, a priori, nous avons la possibilité d'être globaux. Comment s'y prendre ? Eh bien, pour placer l'énergie dans l'histoire et réciproquement l'histoire dans l'énergie actuelle, eh bien, nous voulons absolument rapprocher et décloisonner les études qui, jusqu'à présent, ont été conduites dans une large mesure de manière séparée par source d'énergie. Et le comité d'histoire a lui-même longtemps porté l'histoire de l'électricité, dont on a vu sur la magnifique infographie qu'elle était elle-même, avait un caractère de système, touché aux autres ressources, mais vraiment rapprocher ceux qui travaillent sur le pétrole, le gaz, l'électricité, le bois, etc. Tout le monde est là, l'impression d'avoir un lieu commun pour discuter. Et nous voulons par ailleurs ouvrir cette publication à ce que nous appelons parfois le monde extra-académique, qui est tout simplement le monde. C'est-à-dire que le monde ne s'arrête pas aux frontières et aux murs de l'université, il commence plutôt, et on aimerait que la barrière ne soit pas trop étanche. Et à cette fin, nous avons développé une rubrique, et c'est le moment où j'allais entrer un petit peu dans le détail de la revue avant de vous donner la parole à tous. Nous avons développé plusieurs rubriques dans cette revue pour que des personnes, merci Cyril, qui sont extérieures à la recherche en histoire de l'énergie puissent s'exprimer, poser des questions, dialoguer. pour ne pas perdre le son, je continue d'utiliser le micro et je vous montre comment se présente la revue, dont l'URL est energyhistory.eu. C'est apparemment une bonne URL, puisque quand on tape de plus en plus dans les moteurs de recherche, on tombe sur nous. La revue est organisée en rubriques de manière très classique. On peut aussi naviguer par numéro ou explorer par auteur et mots-clés. Mais voyons les rubriques rapidement. Il y a dans la catégorie hors format un ensemble de sous-rubriques qui nous permettent de faire entrer des non-historiens, disons, dans notre discussion. Donc il y a par exemple la possibilité d'organiser des dialogues virtuels. Hein. Les personnes qui ont dialogué là sur le premier numéro ne se sont pas rencontrées. Charles-François Matisse, qui est universitaire ici même à Bordeaux, historien qui travaille beaucoup sur le charbon, a pu discuter avec un scénariste, réalisateur, sur la place et l'histoire des utopies et dystopies énergétiques. Vous voyez, donc là, on a un regard extérieur. Nous aurons bientôt un dialogue entre un architecte et un historien moderniste dans cette rubrique. Autre exemple, j'insiste un peu là-dessus parce que à la fois le lieu, notre assemblée aujourd'hui, et puis la démarche me paraît intéressante. Nous avons les interpellations où là, on donne la parole à un non-historien qui s'adresse aux historiens pour leur dire « Voilà pourquoi je ne trouve pas dans ce que vous écrivez pour l'instant les réponses à des questions historiques qui me paraissent importantes. Et je vous explique comment éventuellement vous pourriez réfléchir à cette question et ce que surtout cela m'apporterait, nous apporterait. » Là, la première du genre, c'est Rémi Gandouin qui est un ingénieur et qui explique que quand on étudie l'histoire de l'éolien, il serait temps de ne plus seulement se concentrer sur les éoliennes elles-mêmes, les machines, les turbines, mais regarder aussi tout le champ de connaissances qui a surgi avec ces implantations d'éoliennes sur l'étude du vent, l'étude des sites. Voilà, il faut historiciser l'étude des vents, l'étude des sites qui sont si importantes dans les implantations des éoliennes. Et il explique pourquoi c'est important. La rubrique principale, et j'en termine avec cela, de la revue, c'est le dossier. Donc le premier dossier, Special Issue, fut consacré à l'histoire de l'énergie comme programme. Qu'est-ce que c'est que de faire l'histoire de l'énergie aujourd'hui? Quels sont les enjeux, les moyens, les méthodes? Le numéro 2, dirigé par Stéphanie Le Gallic, ici présente et que nous retrouvons cet après-midi, pour l'autre table ronde avec Sarah Pritchard de Cornell University, a porté sur l'histoire de l'éclairage et dans une perspective renouvelée où l'on interroge le rapport permanent entre lumière et obscurité. Le numéro 3 portera sur l'impérialisme énergétique, de quelle manière l'énergie est partie prenante, composante forte des histoires impériales, de l'histoire des colonisations. Numéro 4 portera sur les transitions, c'était un thème très attendu, tellement lié à l'histoire. Je vais me rappeler que les transitions sont toujours des faits temporels. Et le 5 sur les flexibilités, vous voyez qu'on a des numéros déjà bien préparés, le 6 sur le genre, le 7, etc. etc. Il y a beaucoup de propositions qui nous arrivent. Alors jusqu'à présent, pour un point, un détail, hein, mais les articles qui paraissent en France, les articles qui sont proposés en français sont systématiquement, aux frais de la revue, traduits vers l'anglais. Là aussi, c'était une ambition initiale de parler à la communauté internationale, de faire connaître les travaux. Alors, jusqu'à présent, sur quoi nos collègues ont-ils travaillé? Eh bien voilà, on a une représentation sous forme de nuages de mots, des thèmes principaux qui ont été abordés dans les 20-30 articles, hein, que nous avons publiés à ce jour. Et vous voyez que les les sujets de l'environnement, des transitions, de la lumière. Les entreprises, le mix, les savoirs, la pollution, etc. sont très très prégnants, dominent la production jusqu'à présent. Est-ce que ce sont des thèmes que vous abordez dans vos travaux? Est-ce qu'il y a une correspondance ou est-ce que vous êtes allé voir ailleurs sur d'autres sujets? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On a prévu un ordre de passage et donc je passe la parole à Anaëlle, qui est donc docteur de l'Université de Nantes et qui nous présente ses travaux.
Il faut switcher sur le...
Est-ce que ça fonctionne? Merci Léonard pour cette introduction. Donc je vais vous présenter le travail de thèse que j'ai soutenu en septembre dernier, donc il y a presque un an déjà, et essayer d'inscrire ce travail dans les dynamiques actuelles de l'histoire de l'énergie que Léonard vient de présenter. Alors ma thèse, le sujet de ma thèse c'était l'histoire des énergies renouvelables en France de 1880 à 1990. C'est donc une histoire sur le temps long, enfin sur un temps relativement long, presque un siècle, de l'ensemble des énergies renouvelables. En termes de décloisonnement sur les frontières nationales, on n'y est pas trop. Ça reste une histoire de la France, mais avec toutes les problématiques territoriales qu'il peut y avoir, en termes de colonies, de décolonisation de territoires d'outre-mer. C'est des territoires que j'ai pris en compte. Donc le double objectif de cette thèse, c'était de nuancer un récit courant, celui d'un déclin des énergies renouvelables à partir de la seconde révolution industrielle et d'un renouveau dans les années 1970, comme s'il ne s'était rien passé entre deux. Alors qu'en réalité, il s'est passé beaucoup de choses, ce que je vais présenter rapidement. Et c'était également de prolonger de nombreux travaux qui avaient été faits sur l'histoire des énergies renouvelables, mais de façon fragmentaire, sur une des sources d'énergie, notamment l'énergie solaire, sur une sous-période de la période 1880-1990, sur un projet, une institution. Alors là, c'était vraiment l'objectif d'un temps long et de l'ensemble des énergies renouvelables. Ça répond également à une volonté de décloisonner les sources d'énergie et d'avoir une perspective plus globale donc sur l'ensemble des énergies renouvelables. De fait, ces deux faits, le fait d'oublier beaucoup d'initiatives qui avaient eu lieu entre la fin du 19e et la fin du 20e, le fait de traiter les projets d'utilisation des énergies renouvelables comme des faits isolés, avait pour conséquence de conférer une image exceptionnelle à certains projets facilement qualifiés de pionniers, de visionnaires, voire d'utopiques, même de bizarres, et de les éloigner d'une dynamique globale qui, en fait, a existé avec des continuités et des ruptures pendant toute cette période. Un autre objectif de cette thèse, c'était celui de mon financeur, la région Pays de la Loire, et d'éclairer les politiques énergétiques actuelles par des leçons du passé. Donc, plus spécifiquement, je me suis intéressée aux projets innovants d'exploitation des énergies renouvelables, aux projets de convertisseurs innovants. Alors là, je remercie Rémi d'avoir fait une présentation aussi précise sur les notions de système énergétique et également de convertisseur. La notion de convertisseur était au centre de mon approche et j'ai adopté une approche systémique que je critique aujourd'hui. J'ai mis hors de mon champ tous les usages traditionnels de l'énergie par cette approche par l'innovation. Donc j'ai pas traité les moulins à vent, à eau ni à marée qui mériteraient des études historiques fouillées. J'ai mis également de côté l'hydroélectricité qui a été largement étudiée, notamment par Serge Benoît, dont je suis très heureuse de savoir que son travail sera publié, si j'ai bien retenu. J'ai laissé de côté également cette source d'énergie. Quelques résultats principaux de mon travail, c'était de montrer d'abord le caractère précoce des initiatives en faveur de l'exploitation des énergies renouvelables par des convertisseurs innovants, leur multiplicité et leur récurrence. J'ai obtenu une périodisation en 4 grandes phases, avec pour chaque période un engouement au début, un très grand nombre de projets, et à la fin de chaque période, un abandon de la majorité de ces projets. J'ai constaté qu'au fur et à mesure de la période étudiée, alors j'ai pas dit de quelle énergie renouvelable il s'agissait, mais il s'agit de celle qu'on qualifie d'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est-à-dire le vent, le soleil, les énergies marines, les gradients naturels de température, qu'on qualifiait déjà à la fin du 19e siècle de force naturelle, de façon quasiment synonyme d'énergie renouvelable. Donc au fur et à mesure, il y a eu une mise en ressources quasiment générale de tous les territoires et de toutes ces énergies renouvelables, avec un panel croissant d'énergies renouvelables étudiées par des entreprises, par les pouvoirs publics également, et une institutionnalisation des initiatives. J'ai constaté une grande influence de l'état matériel et politique des systèmes énergétiques, et électriques en particulier, mais également de la conjoncture économique globale sur la forme et le devenir des projets de convertisseurs d'énergie renouvelable. Un autre grand résultat, c'est une, non pas une rupture, mais plutôt une continuité, c'est le fait que la machine thermique, dans la conception des convertisseurs, reste le modèle de référence de tous les convertisseurs d'énergie renouvelable, et de façon de plus en plus caractéristique même. Donc qu'est-ce que j'entends par ce modèle de la machine thermique? C'est un idéal de puissance. Il a été question de puissance tout à l'heure, mais c'est important. C'est-à-dire que la machine, sur une constante de, sur une période donnée, délivre de façon constante et maximale une certaine quantité d'énergie. Donc il y a cet idéal de puissance, de régularité, mais aussi la possibilité d'une délocalisation. Donc c'est assez... on le voit encore aujourd'hui dans le projet de transition énergétique. Et l'effort des ingénieurs a été orienté dans ce sens de façon de plus en plus importante. Donc là, j'ai constaté également que la forme technique et politique de ces projets a été orientée de façon croissante vers l'intégration des convertisseurs dans le système énergétique, et en particulier électrique, une intégration sur la période que j'ai étudiée qui, paradoxalement, a fragilisé les possibilités de diffusion des convertisseurs, puisque donc, la majorité des projets que j'ai étudiés se sont soldés par des échecs. En effet, les convertisseurs renouvelables étaient de façon récurrente peu concurrentiels par rapport aux convertisseurs thermiques, nucléaires, mais également hydroélectriques. Alors l'énergie hydroélectrique est particulière par ses caractéristiques géographiques et physiques, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Donc après ces constats, ces grands résultats sont nuancés en fonction des sources d'énergie, des territoires d'application et des périodes. Pour terminer... Je voudrais maintenant soulever deux grandes questions auxquelles je me suis confrontée ou que je me pose encore aujourd'hui dans mes travaux. C'est déjà la difficulté du caractère hétérogène des convertisseurs étudiés dans leur forme, dans leurs usages, dans leur inscription socio-technique, qui est liée évidemment à la propriété, aux propriétés variées des énergies renouvelables, mais surtout au fait que la source d'énergie ne caractérise que très partiellement le convertisseur. Donc finalement, un convertisseur s'intègre dans un système socio-technique et c'est pas tellement la source d'énergie qu'il utilise qui va lui donner ses caractéristiques techniques et économiques. Donc il y a vraiment une inscription politique, technique, économique de ces machines. Donc cette difficulté de l'hétérogénéité des convertisseurs, je l'ai résolue par un intense effort classificatoire, mais ça me mène à une conclusion partielle, c'est celui de la difficulté à manipuler le concept d'énergie en histoire, qui est un concept à caractère holistique et totalisant, qui est historiquement situé, comme le disait Rémi tout à l'heure, dans une société, notre société thermo-industrielle, pour reprendre les termes d'Alain Gras, où elle prend une place centrale comme concept et comme réalité matérielle. Donc c'est un concept qui doit être toujours manipulé, à mon avis, avec la plus grande des précautions. Une autre question méthodologique concerne l'approche systémique que j'ai adoptée, que Rémi a très bien présentée tout à l'heure et sur lequel il a aussi émis quelques réserves, enfin pas réserves, mais qu'il a un peu remis en question.
On en parle dans la discussion.
D'accord. Voilà.
Non mais, parce que là, tu aurais mal aux gencives. Mais merci Anaël pour cette présentation. C'est un tour de force de résumer 5 ans en 3 minutes, c'est à peu près impossible. Louis est le doctorant de notre assemblée, donc il n'a pas encore soutenu sa thèse. Il est en...
Je rentre en deuxième année.
Deuxième année de thèse à l'EHESS sous la direction de...
Geneviève Assar-Guilbeault.
Est-ce que les propos d'Anaël, j'ai vu que tu prenais beaucoup de notes, est-ce que cela t'a inspiré quelques remarques avant de passer à ta propre présentation?
Alors oui, complètement, parce qu'il y avait... je travaille aussi, je m'efforce de travailler sur le nucléaire, donc sur le temps long également, mais ce qui est un temps assez court à l'échelle humaine depuis le développement dans les années 50. Je travaille donc sur le Rhône nucléaire, donc pas du tout, je ne suis pas un régional de l'étape, contrairement à plusieurs autres. Je travaille sur donc l'implantation des centrales nucléaires le long du Rhône, depuis les années 50, donc qui est la date d'implantation du site de Marcoule, par le commissariat à l'énergie atomique, jusqu'à donc la décision de fermeture en 1997 de Superphénix. Je vais vous expliquer donc très rapidement, en 180 secondes, comme le concours de thèse, ce que j'essaye de faire et donc mon projet qui est donc pour l'instant encore en cours. Donc tout part donc de cette concentration, qui est le premier mot-clé, je pense, vraiment du nucléaire sur le Rhône. On a 15 réacteurs 1997 en fonctionnement, uniquement d'EDF et de la NERSA, donc qui est la société mixte qui gère donc Superphénix, ce qui est indiqué donc Crémalville. Mais également donc le site de Marcoule, qui est un site de recherche du CEA. Mais également donc, le site de Pierre-Latte et Eurodif qui sont situés au côté du Tricastin. On a une continuité le long du Rhône, le long d'un fleuve, tout simplement parce que le nucléaire en fait fonctionne comme une énorme bouilloire, a besoin d'eau pour fonctionner et pour se refroidir. Un deuxième élément donc de continuité, c'est la continuité qui m'a interpellé, donc la continuité chronologique. Alors je m'intéresse aux dates d'implantation et non pas aux dates de mise en fonction des centrales, ce qui permet en fait de reculer systématiquement l'étude de plusieurs années, notamment donc le site de Marcoule qui est choisi en fait dès 1953, donc la construction des réacteurs commence en 1955. On voit également donc quelque chose qui a été évoqué dans l'introduction, le fait que la décision en fait d'extension du nucléaire en France n'a pas été prise après le choc pétrolier, mais bien avant, avec la mise en place déjà des premières centrales au milieu des années 60. Pour ce faire, donc, je m'inscris dans le cadre de plusieurs outils méthodologiques. Tout d'abord, donc, j'essaie de faire des cartes. Alors, je ne produis pas encore d'aussi belles cartes que Rémi. Mais je trouve que vraiment l'approche territoriale qui a été évoquée me parle beaucoup. Mais également donc, une approche par l'histoire environnementale sur laquelle on pourra revenir. Puisque je m'intéresse vraiment à la notion de bassin en suivant l'implantation le long du fleuve, mais également le long des projets qui ont pu être faits, notamment, je vous les ai mis ici, qui ont été envisagés sur la Saône, par exemple. On avait prévu on était allé très loin, EDF était allé très loin dans la prévision d'une centrale copiée sur celle de Superphénix à Seine-Selle-Grand, donc à côté de Tournu. Donc je vais résumer très simplement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que mes questions sont simples, c'est comment on a pensé une telle implantation à l'échelle d'un fleuve, quel a été le rôle du fleuve, les modifications qui ont pu être faites sur l'eau et les débats qui ont pu avoir lieu autour de chaque site, de chaque projet de site qui a été abandonné. Les projets sont extrêmement intéressants, je trouve, pour voir les enjeux et les raisons des abandons qui ne sont pas toujours techniques. Et enfin, donc, je m'appuie méthodologiquement pour y revenir sur de nombreuses archives, notamment locales, les archives départementales, les archives communales, et donc également au milieu de ça, ce que j'appelle les archives de l'eau, donc c'est-à-dire la Compagnie nationale du Rhône qui gère le fleuve, mais également donc le service de la navigation du Rhône, tous ces services qui sont en fait au centre des décisions pour implanter ces centrales. Je reviendrai peut-être plus tard sur mes premiers résultats ou mes premières hypothèses si on a le temps.
Les résultats, c'est important.
Les résultats sont importants. Alors pour l'instant, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une, il y a déjà donc auprès de beaucoup d'acteurs une réelle crainte de synergie, notamment non pas au niveau de la radioactivité, mais au niveau de la température du fleuve, ce qui d'ailleurs a été rappelé encore en 2003 avec la baisse de puissance de nombreuses centrales qui était encore qui a encore eu lieu cette année le long du Rhône, puisqu'en fait l'eau relancée donc qui a servi au refroidissement des centrales est renvoyée dans le Rhône et ça crée vraiment des énormes débats dès l'époque sur la capacité du fleuve à diluer cette température. Un deuxième élément donc qui se voit plutôt méthodologiquement, c'est-à-dire que choisir un bassin fluvial avec donc je m'intéresse à 17 centres d'archives départementales, j'en ai consulté déjà une dizaine à peu près. Ils se complètent entre eux, c'est-à-dire que on a beaucoup d'éléments sur le Tricastin, sur l'avancement du chantier du Tricastin à Grenoble, alors que ce n'est pas du tout dans l'Isère. On a de nombreux éléments sur Crémalville à Avignon, sur les manifestations, etc. Donc cette cohérence en fait est renforcée et les échanges d'informations entre les différentes préfectures témoignent aussi d'une certaine conception cohérente donc d'un aménagement sur le fleuve. Enfin, donc, bien sûr, les archives EDF qui s'inquiètent également des possibles synergies entre les centrales et qui essaient de créer à travers la région d'équipement spécifique, donc Rhône-Alpes, un ensemble nucléaire cohérent. Et enfin, je m'intéresse aussi à toute l'industrie autour du nucléaire, parce qu'il y a toute l'industrie, par exemple, de création du zirconium, dont j'ai pu trouver qui est un élément important dans la fabrication des gaines de combustible, qui se trouve aux archives de Chambéry. Et voilà, donc j'essaie de voir aussi les réactions qui ont pu avoir lieu au sein des industriels à l'implantation du nucléaire aussi massif. En conclusion, je voudrais juste souligner que on pourra en reparler sur les sources, mais on m'avait toujours dit que je ne trouverais absolument rien sur le nucléaire, que ce serait une étude assez difficile. La masse d'archives, même en communication libre que j'ai pu trouver, témoigne vraiment de l'inverse, et souligne qu'il est possible de faire une histoire beaucoup plus territoriale et beaucoup plus locale que les histoires qui ont pu être faites du nucléaire, qui sont plutôt des analyses nationales, faites par des chercheurs étrangers, en histoire des sciences, autour de la notion du choix des filières, ou alors autour du discours antinucléaire. Je lancerai aussi une perche peut-être pour la discussion tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense aussi que je complète assez bien la présentation d'avant sur la présentation qui a été faite en trio sur la notion de système énergétique, puisque j'intègre également les externalités qui sont peut-être qui manquent peut-être parfois dans la notion de système, c'est-à-dire qu'on part du gisement, la production jusqu'à la consommation. Et je m'intéresse également à la possible rétroaction en fait de l'eau sur l'énergie dans le cas du nucléaire, sur les débats environnementaux et sur la nature qui peut se rappeler à ces infrastructures. Voilà, je vous remercie.
Merci. Bon, alors là encore douleur au ventre.
Oui.
Inès, on voit des points communs hein, déjà, la notion de l'échec qui est importante, la question des sources. Inès.
D'abord, merci aussi pour pouvoir être ici. Alors, je vois plein de liens. J'avais eu la chance de t'écouter déjà plus longuement ailleurs. Donc, j'ai beaucoup appris de ton travail, ce qui est en route, sur le jeu des différents acteurs. Et je trouve que c'est vraiment très riche. Alors, moi, je viens de terminer une thèse qui a pris son temps, on va dire, qui était intitulée Utilisation de l'électricité. Enfin, pour le coup, même si j'ai aussi forcément abordé d'autres sources, j'ai travaillé d'une façon comparative et transnationale. J'ai étudié trois pays, ou j'ai essayé d'étudier trois pays au niveau trois pays européens. Pour la période, pour les historiens très récents, enfin plutôt acceptable pour les politistes, du premier choc pétrolier jusqu'à 2009, le moment où il faut décider de mettre en place les compteurs ou l'équivalent des compteurs intelligents partout en Europe par la troisième directive. Donc je vois qu'on est déjà au milieu du temps. Comment est-ce que j'ai gérer ça? Voilà. Alors, comment est-ce que je suis arrivée là? Je voulais poursuivre le plan simple que Léonard a suggéré. Je vais archi-accélérer. Donc, est-ce que vous connaissez ces hommes-là? Ce n'est pas un aperçu de la discipline historique. Là, tu connais certains?
Oui. Monsieur
Oui.
Le président
de l'Institut d'énergie de Florence. Oui, voilà. Alors, c'est les économistes de l'énergie. Et en 2009...
ils se trouvaient, vous voyez qu'ils viennent tous de grandes institutions françaises et internationales, ils se trouvaient qu'ils ont publié un article qui m'a beaucoup inspiré. Pourquoi ça ne marche pas?
Ah
oui, c'est le voilà, je vais remettre ça. Pardon. Voilà. C'est un extrait que je ne vais pas vous lire, mais peut-être on va partager tout cela plus tard. Donc, ils ont publié un article au moment où le troisième paquet énergie fut adopté, qui disait un point qui mettait vraiment en avant l'argument prix, qu'il n'y a pas de différence entre les consommateurs électriques allemands, anglais ou français, et que même il faudrait faire attention à pouvoir mettre en place des réglementations particulières du fait d'être un pays très nucléarisé. Voilà. Donc je me suis dit, alors ça me semblait un peu étrange, alors je peux dire plus de cela plus tard, parce qu'à la base je viens pas du domaine d'énergie, mais en même temps j'avais rencontré un autre professeur, Frank Trendman, un historien basé en Angleterre, qui m'a dit bon, c'est vrai que c'est réductionniste, donc allez lire les travaux des anthropologues. Donc c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le sujet. Comme le temps est déjà passé, je vais continuer. L'idée, c'était donc, pour passer au deuxième point, de ne pas dire que l'apport des sciences économiques n'est pas important, mais qu'il serait intéressant d'élargir le spectre et de regarder rien que quelques pays. Déjà, les apports culturels, institutionnels, social et géopolitique aussi, qui nous amène à une autre compréhension de notre consommation quotidien et, à mon avis, à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc, les sub-questions correspondaient un peu à mes chapitres. Je vais passer. Et donc là, très vite aussi, parce qu'on devait dire un mot sur notre parcours, pour moi, alors les deux cœurs de réacteurs, comme vous entendez à mon accent, pas une vraie française, donc c'était vraiment la réforme pour le meilleur et le pire de Bologne qui m'a mis en route. Et j'avais été, comme je pense nous trois, en convention CIFRE. Je peux dire un mot de plus tard. Donc, pour les contributions, à mon avis, ce que j'ai tenté de faire, c'était de contribuer, comme j'ai déjà dit, de manière comparative et transnationale à cette histoire qui s'est focalisée surtout sur les archives nationales et les archives des entreprises, d'amener aussi un regard sur ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, enfin, d'éclairer cela un peu plus. En fait, il y a des travaux qui existent, mais il me semble que ça mérite d'être mis en lumière davantage. Voilà, et donc, et de compléter l'historiographie actuelle de cette manière. Donc, je finis aussi avec les dents ensemble. Je passe.
Et bizarrement, ton.
Le sablier,
tu vois, on serait qu'au tout début à le croire. Donc, il s'adapte.
Bonjour à tous.
Alors, j'ai oublié de dire que, pardon Sylvain, mais Inès a donc fait sa thèse à Sciences Po Paris sous la direction de Paul-André Rosenthal. Et Sylvain Roche représente, lui, l'école bordelaise qui émerge depuis quelques années dans notre paysage français et européen, avec plusieurs thèses qui portent sur l'énergie. C'est vraiment un des points forts de la production académique en histoire sur l'énergie. Merci d'être parmi nous et à toi la parole.
Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter ma thèse que j'ai soutenue le 27 mai 2019 à l'Université de Bordeaux. Donc j'ai beaucoup assisté plutôt sur... Oui.
Éventuellement, tu peux
lever ça. Je peux tirer pour toi.
Donc c'était une thèse en économie que j'ai soutenue au laboratoire Greta, donc c'est le laboratoire de sciences économiques de l'Université de Bordeaux, sous la direction de M. Claude Dupuis et Mme Sylvie Ferrari. Donc je me suis déjà permis de vous mettre les membres du jury pour vous montrer quand même le côté pluridisciplinaire
est très appliqué de cette thèse, sachant que bien évidemment mes deux examinateurs de thèse étaient des économistes, mais les autres examinateurs étaient des gens de la société civile qui représentaient l'État et le financeur, parce que c'était une thèse CIFRE qui était la région Nouvelle-Aquitaine, et aussi un historien, monsieur Christophe Bounot, et un politologue qui était Andy Smith, qui est directeur de recherche à Sciences Po Bordeaux. Donc le cadre de la recherche, comme je vous l'ai expliqué, c'est une thèse CIFRE qui a débuté en décembre 2015 à la région Nouvelle-Aquitaine, au sein de la direction environnement et énergie, sous la directrice Mme Béatrice Chassin. L'axe théorique de la problématique, c'était vraiment d'analyser le changement des systèmes énergétiques en prenant les énergies marines renouvelables comme objet d'étude. Donc plus généralement, c'est une thèse qui s'intéresse sur la marinisation des systèmes énergétiques. Donc dans cette thèse, j'étudie plusieurs technologies, donc l'éolien, l'hydrolien, l'énergie des vagues, l'énergie thermique des mers et le solaire. Parce que le solaire actuellement, comme vous le savez peut-être, des industriels travaillent sur le solaire flottant. Et donc l'enjeu, c'était bien d'examiner les effets des innovations environnementales sur la vitesse du changement technologique vers une économie post-carbone. Donc j'ai abouti à cette problématique générale qui a totalement structuré ma thèse. C'est que s'est-il passé au tournant des années 2000 pour qu'ingénieurs, experts, élus politiques et industriels perçoivent dans les énergies marines renouvelables un totem de la transition énergétique et du passage vers une nouvelle économie maritime. Parce que comme je montre dans ma thèse, les énergies marines répondent à deux transitions. Une transition énergétique, le passage des énergies fossiles à des énergies décarbonées, mais aussi une transition maritime, en France, même en Europe, on parle de croissance bleue. C'est une dynamique qui pousse finalement les systèmes et nos sociétés vers la mer. Donc la problématique de thèse s'inscrit vraiment dans des questionnements très schumpeteriens. Comment les innovations énergétiques émergent-elles et se développent-elles? Donc moi, dans ma thèse, j'étudie essentiellement les questions notamment de dépendance de sentiers, de rupture technologique et de blocage, ce que les anglo-saxons appellent les lock-in. Quelles sont l'ampleur et la rapidité de la diffusion des technologies énergétiques? Donc, à travers différents exemples, j'ai pu montrer que chaque technologie avait son propre agenda, sa propre temporalité. Si on prend par exemple l'énergie des marées, on peut voir que c'est une énergie qui a pratiquement plus de 100 ans, voire plus si on tient compte des moulins à marée. Alors que l'éolien flottant a, pour le coup, moins de 10 ans. Donc vraiment une filière vraiment pluritechnologique avec ses propres agendas. Comment réagissent les systèmes énergétiques face à l'irruption des nouvelles technologies énergétiques? Donc j'ai notamment étudié la réaction du système nucléaire face à l'émergence de ces nouvelles technologies. J'ai, dans ma thèse, notamment étudié le premier appel d'offres de l'éolien en mer, de celui de 2004. Parce qu'en 2004, l'État lance le premier appel d'offres pour l'éolien en mer, qui n'a finalement jamais abouti. Et en même temps, il lance l'EPR. Lorsque la ministre fait un discours assez ambitieux pour répondre aux impératifs européens en termes de développement des énergies, et l'État lance l'appel d'offres de l'éolien et l'EPR. Donc à travers vraiment l'analyse des discours politiques et l'analyse de l'agenda médiatique, j'ai pu voir comment les deux systèmes étaient représentés et se confrontaient. Et enfin, quel rôle a joué l'environnement technologique, socio-économique, institutionnel et territorial dans la mise à l'agenda de ces technologies? Donc, sur ce quoi j'ai vraiment souhaité insister aujourd'hui, c'est vraiment le choix d'une méthodologie originale. Donc, j'ai vraiment souhaité avoir une approche interdisciplinaire à la croisée des sciences économiques et des sciences sociales. Certes, c'est une thèse qui s'inscrit totalement dans le champ de l'économie d'innovation, mais j'ai vraiment fait appel à d'autres chances scientifiques, notamment l'histoire des sciences et techniques, la sociologie politique de l'innovation et la géographie économique. Une démarche de recherche-action à visée collaborative, sachant qu'en effet, durant 3 ans et demi, parce que c'est une thèse que j'ai réalisée en 3 ans et demi, j'ai vraiment réalisé plus de 100 entretiens et vraiment une démarche de travail après les acteurs du terrain. Donc j'ai vraiment pas mal gravité dans, dans les sphères notamment des industriels et des acteurs politiques pour vraiment essayer de mieux comprendre quels étaient les verrous et les blocages de cette filière. Donc j'ai notamment travaillé avec Centrale Nantes, j'ai travaillé avec l'ADEME, j'ai travaillé avec l'école polytechnique, les ministères de l'environnement sur cette question. Et enfin le troisième grand critère qui pour moi justifie une approche originale de cette thèse, c'est vraiment le choix de la thèse par article, sachant que moi dans ma thèse se compose de 10 articles qui sont structurés en 3 grandes parties, et il faut savoir que à peu près la moitié de ces articles ont été co-signés avec des acteurs soit du monde industriel, soit du monde des institutions. Donc voilà pour moi les 3 grandes particularités de cette thèse qui, je pense, répond à un manque, parce que c'est vrai que les énergies marines renouvelables, hormis le tidal swing, l'énergie des courants de marée, a été plutôt bien étudié par les historiens, notamment avec l'épisode de la Rance. Mais c'est que les autres technologies, notamment l'éolien en mer, il n'y a pratiquement rien, sachant que ce qui peut paraître assez fou, sachant que l'émergence des premiers projets éoliens en mer date des années 70, en fait. Donc, notamment aux États-Unis. Donc voilà, dans la période finalement de crack pétrolier, on voit apparaître les premiers projets éoliens en mer, notamment aux États-Unis. Donc voilà ce que je vous souhaitais dire. Je peux revenir plus sur les résultats.
Merci beaucoup à tous les quatre. Nous avons une dizaine de minutes pour nous accorder.
Même plus, on va aller jusqu'à la demi.
Oui.
Voilà. C'est quand même d'un quart d'heure. Oui,
c'est moi, je vais être. Merci. Merci.
En même temps, pour le buffet,
Bien. Alors, la première nouvelle pour les étudiants, notamment, c'est peut-être d'apprendre qu'on peut faire une thèse et être payé pour faire cette thèse par une collectivité ou par une entreprise. Ça n'est pas quelque chose d'évident quand on fait de l'histoire. Et là, on voit que travailler sur cet objet, l'énergie, fait qu'on entre directement, peut-être plus que avec d'autres objets, en lien avec des préoccupations actuelles et des besoins actuels de notre société qui cherche, qui a besoin de mieux comprendre le passé, d'où elle vient, pour voir où elle va. Il y a des questions qui ont été pointées déjà. Est-ce que l'on n'est pas prisonnier du terme même d'énergie quand on travaille sur l'énergie, prisonnier d'une approche systémique? Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir et qu'est-ce qu'elle invisibilise? Qu'est-ce qu'elle met dans l'angle mort, cette approche par système? On peut réfléchir à cela ensemble si vous voulez. J'avais noté aussi la question des échecs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc faire toute sa place à ce qui n'a pas, a priori, dirait-on aujourd'hui, vu après coup, fonctionné, et qui est pourtant très, très instructif. Il y a la question des archives, fondamentale pour les historiens, et donc autour de ces questions, je vous propose dans un premier temps, chers panélistes, de réagir autant que vous voulez, en essayant de faire des remarques courtes, éventuellement sur ce qu'on dit, ce que vous avez dit les uns et les autres, et puis rapidement vous donner la parole dans la salle pour des questions précises à tel ou tel adressé à tel ou tel d'entre nous, ou bien général. Alors, une remarque sur le système. Est-ce qu'Anaël veut pousser, nous dire où elle en est de sa réflexion sur les systèmes énergétiques?
Oui, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est une perspective qui est très commode pour faire une histoire de l'énergie, parce que l'énergie, c'est une entité totalisante. Enfin, si on veut, tout peut être convertisseur. Il y a des entrées, des sorties, et des choses qui sont animées. Et en fait, je pense qu'il faudrait, et j'ai l'impression que mes collègues docteurs et doctorants le font à leur façon, c'est essayer de penser les choses, les situations techniques dans leur singularité. Et alors, quel est l'écueil finalement de l'approche systémique? C'est de vouloir tout le temps raccrocher toute réalité sociotechnique à un système existant. Le fait est que les infrastructures énergétiques que nous connaissons aujourd'hui se sont effectivement construites selon le modèle réticulaire, selon le modèle des réseaux, selon le modèle cybernétique aussi, je ne reviens pas sur la notion de système technique, mais il y a également eu beaucoup d'initiatives qui étaient peut-être hors de ce système, et il peut y avoir quelque chose d'artificiel à vouloir raccrocher toute réalité sociotechnique à ce système, et peut-être même que ça peut avoir comme conséquence de stériliser l'imaginaire, parce que finalement on peut aussi inventer des solutions qui ne se raccrochent pas forcément à un système. Alors
ça c'est vraiment l'universitaire, hein. On vient à peine de commencer à penser en termes de système qu'on critique la notion de système.
C'est, que j'ai très largement utilisé.
C'est très sain. Et merci de proposer cette réflexion. Est-ce que tu avais une autre idée ?
Alors, juste pour rebondir sur les autres présentations, j'ai beaucoup apprécié l'idée de pouvoir aller chercher dans des sources inattendues, comme les archives départementales pour le nucléaire, et tout ce que ça peut apporter, justement, d'enseignement sur des acteurs auxquels on n'aurait pas pensé, sur des réalités racontées par d'autres acteurs. Et moi-même, je pense qu'avec vos approches systémiques et le fait d'utiliser des archives nationales, c'est les archives que j'ai essentiellement utilisées, je ne suis pas du tout allée dans le département, par exemple, ou dans les collectivités territoriales, c'est quelque chose qui peut permettre d'ancrer les projets dans leur réalité politique et locale. Et c'est un terrain que j'ai personnellement envie d'explorer à partir de maintenant.
Oui, il faut nous parler de demain. Merci.
Oui, je peux remonter tout de suite sur ces archives départementales. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que on m'a, par exemple, refusé des documents aux archives nationales qui sont en accès libre sans dérogation à un délai de communicabilité de 25 ans dans les archives départementales. On me refuse aussi des fois dans les archives départementales, par exemple de Grenoble, des documents que j'ai déjà pu consulter à Bourg-en-Bresse. Donc ça, je leur dis pas, j'évite, mais c'est vrai qu'on voit aussi des différentes politiques, en fait. Personnellement, en termes de, vraiment de concret d'archives, d'expérience concrète, j'ai l'impression que Grenoble, par exemple, est plus marqué par les grandes manifestations de Super Phoenix, et donc ils ont fait les délais de communicabilité par versement. Tout le versement concernant Super Phoenix est à 50 ans. Bourg-en-Bresse, au contraire, les archives de l'Ain ont ouvert les cartons vraiment et ont décidé d'accorder, si c'était par exemple des débats autour des rejets de chaleur, ils estimaient que c'était pas vraiment dangereux. J'en profite aussi pour préciser quelque chose que j'ai peut-être pas dit de manière évidente. Je m'intéresse également, bien entendu, aux rejets radioactifs, puisqu'il y en a. Il y a des rejets radioactifs liquides et gazeux, des autorisations de rejet pour ça, donc je m'intéresse aussi à ces éléments-là. Mais je m'intéresse principalement actuellement aux rejets thermiques, puisque j'ai aussi des capacités, une occasion de financement un peu annexe avec un projet ANR à Lyon, de géographe et d'un interdisciplinaire qui s'appelle Récupert, qui s'intéresse justement à la récupération de la chaleur fatale, qui est un élément de réflexion actuelle, donc de récupérer la chaleur et notamment les expériences historiques qui ont pu être faites autour du nucléaire. Je peux rebondir encore un petit peu sur...
C'est que là tu pointes un élément que j'ai oublié de rappeler, mais qui pourrait structurer notre discussion, c'est la question de l'externalité dans les représentations des systèmes. Les externalités négatives en l'occurrence. Donc on n'oublie pas ça.
Il y en a positives aussi.
Et comment on les représente.
Je m'intéresse aussi, du coup, moi j'ai une approche, pour l'instant je balaye énormément d'archives et donc je vois beaucoup d'externalités. Il y a aussi des externalités positives avec des communes qui peuvent se battre pour avoir la centrale, pour avoir à l'époque la patente, donc la taxe professionnelle, les occasions de travail pour les chantiers, etc. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là. Je voudrais juste finir sur la place des échecs. Effectivement, moi, Super Phoenix, par exemple, qui est aujourd'hui quand même globalement, même par EDF. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait dans les archives d'EDF, il y a maintenant un panneau marqué voilà les projets un peu en échec. Super Phoenix a été un échec extrêmement intéressant à étudier justement pour voir la différence, l'évolution qui n'est pas un projet abandonné du coup, mais qui est quelque chose qui a vraiment fonctionné, qui a été arrêté, et qui encore aujourd'hui a été à nouveau arrêté avec le projet Astrid du CEA, qui était sur le même modèle. Donc c'est vraiment très intéressant de voir aussi ces choses qui n'aboutissent pas. Et enfin, ça va être une question pour Sylvain, du coup, justement, maintenant il y a des centrales nucléaires sur l'eau qui ont été lancées, je crois, la semaine dernière par la Russie, ouais, c'est ça. Où ça pourrait faire.
En effet, s'il y a une centrale nucléaire qui a été lancée en Russie, mais comme je le montre dans ma thèse, c'est le dernier stade de la marinisation des systèmes énergétiques. Actuellement, il y a vraiment une marinisation de l'ensemble des filières techniques dans le domaine de l'énergie. Ça a commencé, peut-être la plus ancienne, c'est l'énergie des marées, bien évidemment parce qu'elle puise sur l'énergie de l'eau, mais après, petit à petit, on a pu voir que ça s'aggravait. Il y a eu dans les années 50 avec le pétrole, où on voit apparaître les premiers plateformes offshore dans le golfe du Mexique. Puis après, on a vu ça dans les années 90 avec l'éolien. Avec l'éolien, le premier parc éolien au monde est inauguré en 1990 au Danemark. Et puis après, depuis à peu près 10 ans, on voit une accélération portée essentiellement, comme je le demande de ma thèse, par les politiques de croissance bleue, qui touche l'ensemble des filières énergétiques. L'éolien offshore posé maintenant est devenu l'éolien flottant. Le solaire posé devient du solaire flottant. Donc il y a vraiment une forme de dynamique qui pousse finalement Prométhée vers des horizons de plus en plus lointains. J'ai même vu qu'actuellement les Chinois réfléchissaient à construire une centrale solaire dans l'espace. Donc c'était vraiment une quête continue vers des espaces vides qui me semble pour le coup très intéressant. Après, moi je me permettrai de rebondir sur deux points. En termes de méthodologie, on n'a pas forcément parlé lors de ce panel, c'est l'approche comparative entre les pays. L'approche comparative entre les pays, sachant que moi, c'est vrai que j'ai réalisé une thèse où je me suis pas mal déplacé en Europe et qui j'ai pu mettre en avant les caractéristiques et la spécificité de tel ou tel modèle, notamment du modèle français. Donc je me suis rendu notamment aux Pays-Bas, où j'ai pu voir comment les Néerlandais réfléchissaient à reconvertir leurs digues à bien sûr à la montée des eaux, mais aussi à l'enjeu de la transition énergétique. Ce qu'ils appellent the energy dike, l'énergie produite par les digues. Je me suis rendu aussi dans les Orcades, en Écosse, où j'ai pu vraiment bien analyser le système énergétique insulaire, qui est très particulier, qui est totalement fascinant. Vraiment, les îles, ce sont vraiment des laboratoires de la transition énergétique, ce qu'ils font sur les énergies offshore, mais bien sûr, maintenant aussi sur la production d'hydrogène, sur la voiture électrique, c'est absolument fascinant. Ça dans les Orcades, on voit aussi ça en France, hein, sur l'île de Saint, sur l'île de Wesson, Belle-Île, c'est totalement fascinant. Et je me suis rendu aussi en Espagne, à Euskadi, plusieurs mois, à Bilbao. J'ai pu vraiment mieux comprendre, cette fois-ci, de comparer les modèles régionaux. Donc j'ai comparé le modèle d'Euskadi avec le modèle de la Nouvelle-Aquitaine, à essayer de comprendre pourquoi, finalement, Euskadi, c'était beaucoup plus simple de développer les projets liés à l'éolien en mer. Donc, j'ai pu voir notamment une passerelle, une transition qui se réalise avec l'industrie du pétrole. En France, pourquoi c'est difficile, de manière très simple, pourquoi c'est difficile de développer des projets autour des énergies marines, notamment de l'éolien en mer? Bien évidemment, il y a un verrou qui se fait autour du nucléaire, mais aussi dans les pays qui réussissent cette transition, on peut observer, c'est surtout une transition entre l'industrie du pétrole en mer et l'industrie de l'éolien. Il y a vraiment des transferts technologiques, des transferts des transferts politiques, législatifs, que nous en France, on n'a pas. C'est, on découvre la mer, sachant que ce qu'il faut, c'est qu'on a quand même le pays qui a la plus grande façade maritime au monde, mais on est un pays très terrestre, et finalement, on redécouvre la mer. Il y a 10 ans, aujourd'hui, en fait, 10 ans du brevet de la mer, qui a été lancé à l'époque par M. Jean-Louis Borloo, et en espace de 10 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Voilà ce que
je souhaitais. Merci. Le détour par la comparaison est en effet toujours profitable. Il permet de voir son objet différemment, de le recontextualiser. Je pense que là-dessus, Inès, tu aurais des choses à dire, parce que toi, tu étais à la fois dans la comparaison et dans l'observation des dynamiques transnationales.
Je voulais peut-être juste avant permettre... Alors, moi, je suis vraiment très biaisée. Donc, par cette formation, vous avez vu que c'est en anglais aussi. Donc du coup, j'imagine que tu connais, mais je me suis dit en t'entendant, c'est peut-être utile de lire le dernier livre, pour le coup, de Frank Trettmann et d'Elisabeth Schoff, Infrastructures and Practice. Voilà, parfois, bon, du coup, on peut en discuter peut-être dans des questions. On est peut-être un peu du coup hors territoire avec ces formations aussi. Alors pour la comparaison, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'ai beaucoup appris. Pour moi, ce qui était le plus surprenant, c'était de voir dans le temps la dynamique de certaines définitions, en fait. Alors, j'étais restée sur le niveau national, parfois j'ai pu descendre au niveau régional, mais que différents endroits ne mettaient pas du tout la même chose dedans. Et donc, du coup, aussi de voir à quel point on peut mal se comprendre quand on négocie des directives, par exemple, au niveau européen, ou voir être d'accord parce qu'on comprend autre chose. Voilà, je pense
que
c'était ça pour mon
argent,
pour l'instant.
Non, mais c'est bien de maintenir le cours, parce que comme ça, nous avons la possibilité d'ouvrir à la salle et d'avoir un échange avec vous. Merci beaucoup. Merci de poser des questions.
Ouais, j'ai une question très rapide pour Sylvain. Est-ce que tu as travaillé avec l'IFREMER ? Et après, j'ai une question peut-être plus générale, mais très brièvement, parce qu'on y reviendra après, mais quelle est la place des controverses dans les différents résultats que vous avez pu avoir, mais peut-être plutôt sur le
Donc oui, j'ai travaillé avec l'IFREMER à Brest. Mais une petite anecdote, puisque comme on travaille aujourd'hui sur l'histoire de l'énergie, j'ai souhaité à l'époque consulter leurs archives concernant les hydroliennes, en fait. Et il faut savoir qu'un grand groupe industriel qui, à l'époque, travaillait sur ces technologies avait récupéré une bonne partie de ces archives. Et donc, ça a rendu, finalement, l'analyse historique plus difficile. Mais en effet, je vous invite notamment leur site en ligne, l'IFREMER, à un site en ligne, à un historien qui travaille au centre à Brest, qui est totalement ouvert sur travailler sur des questions liées au domaine de l'énergie, notamment sur la décarbonisation. Travailler aussi sur les bateaux, sur l'enjeu de la décarbonisation des navires. Donc n'hésitez pas à rencontrer ce monsieur, à lui téléphoner si vous souhaitez travailler sur ces questions.
Les controverses.
Oui, donc les controverses, de fait, elles sont au cœur du sujet. Il suffit de regarder la bibliographie qui est quand même. Il y a toute une littérature mi-scientifique, mi-militante qui a pu être faite. Dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anciens ingénieurs qui ont écrit pour montrer que voilà, il y a aussi des livres noirs du nucléaire. Bon, on est sur un sujet un peu miné. C'est un sujet aussi qui a été étudié. Enfin, les controverses du nucléaire. Il y a plein de choses assez croustillantes. Les années 50, l'OMS classe par exemple le fait d'être anti-nucléaire comme une peur du progrès, comme une maladie mentale. On a de l'autre côté donc des grands mouvements anti-nucléaires qui ont leur spécificité en France. Donc c'est vrai que ça a été plutôt étudié. Moi je m'intéresse, je suis sur des sites qui sont en plus très des projets qui ont été abandonnés notamment par sous pression de mouvements anti-nucléaires. Superphénix est quand même le lieu en France des grandes manifestations en 76. Je les intègre également, mais je pense plutôt compléter en fait ce qui a déjà été fait, qui a déjà été très bien fait par beaucoup d'historiens sur les mouvements anti-nucléaires en France. Et je préfère voir plutôt ce qui m'intéresse, par exemple, dernièrement, c'est la continuité au niveau du Rhône, en fait, des militants. C'est-à-dire que dans les rapports RG d'Avignon, on surveille très très activement les gens qui partent en voiture, par exemple, pour aller se rendre aux manifestations de Crémalville. On les a identifiés comme des gens qui étaient déjà opposés à Cruas-Metz, etc. Donc à Montélimar également, enfin, ils les suivent. Donc il y a aussi, et eux, en fait, j'ai trouvé une image assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils représentent le Rhône horizontalement, ce qui rend encore plus forte la représentation des centrales nucléaires pour dire qu'il faut défendre le Rhône. Et il y a des comités de défense du Rhône en soi, donc c'est plutôt sur cet apport-là que ça m'intéresse, la controverse. Et après, les controverses scientifiques, non, je ne suis pas trop d'histoire des sciences.
Réponse brève, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir deux ou trois.
Bah, ce sera bref parce que j'ai pas grand chose. Enfin, juste pour dire que des controverses, j'en ai pas étudié directement, mais j'en ai connaissance par des sources indirectes, en fait, puisque j'ai surtout étudié les ingénieurs, et elles sont récurrentes dans les projets marémoteurs, en fait, dans l'installation des îles marémotrices. Les communes ont peur de la défiguration du paysage, et il y a des conflits d'usage de toute façon. Donc, sur les installations marémotrices, c'est très clair. Sinon, j'ai un exemple dans les colonies où les ingénieurs ont peur des actes de déprédation des autochtones contre les éoliennes qu'ils ont envie d'implanter. Donc, ce qui suppose que ces autochtones n'avaient pas l'air d'être tout à fait d'accord avec le projet d'implantation d'éoliennes. Donc, ça, c'était dans les années 50, en Algérie. Donc, voilà.
Merci.
Oui, monsieur. C'est une question spécifique, pareil, sur l'énergie. Sur l'énergie hydroélectrique. Je voudrais savoir en fait dans quelle mesure, dans votre méthode comparative avec les autres pays, vous avez pu remarquer des différences au niveau de la politisation de la production justement d'énergie biomasse. Par exemple avec le Pays basque espagnol, est-ce qu'ils ont un régime politique qui centralise justement la mise en place de structures? Parce qu'en France, dans les régions, on n'a pas ce système-là. Est-ce qu'au niveau étatique, ou alors faire une sorte de ligue sur toute la côte des départements qui pourraient mettre justement en avant l'aménagement de ce genre de structure. Est-ce que c'est envisageable?
Oui, donc moi, dans ma thèse, je n'ai pas réellement travaillé sur l'hydraulique, parce que l'hydraulique ne fait pas partie des énergies marines renouvelables, en fait. Donc, j'ai réalisé un article avec un chercheur, Yves Bouvier, sur la Rance, en fait, sur comment EDF actuellement essaie de réinterpréter la Rance, ce qu'il appelle le marée moteur 2.0. Et nous avons étudié vraiment l'évolution technologique de cette filière, et nous avons bien vu que le marée moteur est issu de l'hydraulique de montagne, en fait. Donc c'est un article parmi ma thèse que j'étudie l'hydraulique, mais honnêtement c'est pas la filière que j'ai le plus étudiée. Donc je sais que voilà, le Pays basque espagnol travaille plutôt sur les notions d'éolien en mer flottante maintenant et de wave, l'énergie des vagues. Et dans ma thèse j'ai pas réellement étudié, notamment je pense au micro hydraulique de montagne, j'imagine peut-être. J'ai pas étudié.
Deux dernières questions, parce que je ne peux pas la refuser, professeur Bruno.
Moi, c'est une question sur les EPR, on parlait tout à l'heure. On arrive à un point du développement humain où il y a rapidement une nouvelle source d'énergie beaucoup plus puissante que la fission nucléaire. Et donc, l'EPR, c'est le prototype de premier réacteur à fusion nucléaire.
Non.
France, non.
C'est l'ITER. Mais en fait, la question c'est, est-ce qu'on peut considérer la fusion nucléaire comme une énergie renouvelable ou pas? Parce que c'est... J'ai pu comprendre qu'il y avait moins de déchets nucléaires, qu'il y avait moins longtemps dangereux. Je crois que c'est en dizaines ou en centaines d'années, au lieu de dizaines de millénaires, c'est une différence. Et c'est une production, je crois, qui est plusieurs fois, peut-être 10 fois supérieure à celle de la fission.
Peut-être que les historiens sauront vous répondre sur le fait de savoir si, par le passé, on a considéré cette possibilité comme relevant du renouvelable. Voilà. Après, sur le terme, le plan vraiment d'ingénieur scientifique, je ne pense pas qu'il soit vraiment à l'aise, mais est-ce qu'on a catégorisé la fusion ITER, donc ça nous renvoie aux années 80, comme du renouvelable?
Pour répondre à cette question, l'énergie nucléaire a été considérée par certains acteurs de façon récurrente comme une énergie renouvelable. La question c'est plutôt comment les acteurs ont classifié les sources d'énergie au cours de l'histoire. Et même depuis la fin du 19e siècle, l'atome et l'énergie atomique fait partie d'abord des grands espoirs d'une production illimitée d'énergie. Donc elle a été classifiée parmi les forces naturelles, puis parmi les énergies nouvelles ou renouvelables. Après, c'est tous les problèmes des classifications, c'est qu'est-ce qu'on accorde comme caractéristique à un ensemble de sources d'énergie. Et dès que le nucléaire a été mis en usage, la classification du nucléaire parmi un ensemble d'énergies a posé problème. Selon certains acteurs, c'était une énergie dangereuse qui crée des déchets, ça on le sait depuis. Enfin, c'est identifié depuis le début. Et puis pour d'autres acteurs, bah, comme vous dites, il y a quand même une concentration d'énergie énorme et ça résout le problème de l'épuisabilité des ressources, encore plus avec la fission, effectivement.
Vraiment rapide.
Oui, non, mais concernant la fusion, il faut déjà savoir que c'est une énergie qui est présentée comme d'avenir, mais qu'elle est très très ancienne. J'ai le souvenir, parce que je travaillais sur le nucléaire, que la première personne qui parle de fusion, c'est Enrico Fermi après la guerre, en fait. Donc c'est vraiment serpent qu'on recule à plus de pratiquement 120 ans. Après, ce qui est intéressant en termes de classification, c'est de voir aujourd'hui comment les acteurs promotionnels légitiment le nucléaire dans le paradigme de la décarbonisation. C'est de voir que l'impact qu'a eu notamment les accords de Paris sur le discours notamment porté par EDF pour légitimer cette filière. Le nucléaire des années 70 jusqu'à la fin des années 2000, il était légitimé par le critère prix.
C'était la filière qui produisait le plus et avec un prix compétitif face aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, toutes les études, que ce soit de l'IAE ou de l'ADEME, montrent que le nucléaire du futur, le PER, n'est plus compétitif face notamment à l'éolien offshore et le solaire. Donc EDF aussi a adapté son discours en fonction des critiques et des controverses du nucléaire. Ça me semble aussi important.
Merci. Alors, si on ne veut pas déjeuner en 180 secondes, il faut terminer notre table ronde par une dernière question.
En 180 secondes, des félicitations, parce qu'on a vu beaucoup d'échecs, et souvent les échecs sont oubliés. On peut citer Cédric Carle, qui a un site donc archéo-paléo-énergétique. Deux, les controverses, la question, l'histoire des controverses dans l'énergie est vieille comme le monde, et on a une trajectoire totalement étudiée depuis le 19e siècle sur l'hydroélectricité, le passage de l'hydromécanique à l'hydroélectricité, les conflits avec le tourisme, avec l'industrie, etc. Et trois, si c'était la question, il faudrait plus, c'est que dans quatre communications, un point commun, c'est qu'on a chaque fois des conflits entre les institutions, entre les administrations, entre les organismes, au sein même entre les entreprises, donc au fond dans les trajectoires, les conflits interinstitutionnels sont souvent plus importants que les conflits entre groupes militants, etc. Quand dans les bifurcations, c'est souvent ce qui retarde, et en passant donc à la thèse de Sylvain Roche, ça semble une confirmation. Donc je crois que quand même dans vos quatre, pour le nucléaire, le CEA, EDF, etc., absolument, on retrouve une tradition qui n'est pas une humeur française, mais qui est quand même bien française.
Merci, pardon à celles et ceux qui voulaient encore poser des questions. Les orateurs seront présents lors du déjeuner. Merci pour ces remarques conclusives. Et à bientôt pour la suite des échanges.